7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Richard de Seize.
Chers amis, il est 8h43 et 38 secondes. Merci beaucoup d'être avec nous. Dans 10 minutes, ce sera l'analyse de Xavier Aimant, écologiste et escrologiste. Mais tout de suite, la chronique de d'Alexandre de Galzan.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Eh bien, vous revoilà, Alexandre. C'est une joie. Alors, j'ai calculé avec les jours fériés du mois de mai, entre ceux qui offrent repos et vacances aux journalistes de bonne volonté, épuisés par des chefs indignes et un labeur harassant, eh bien, voilà, on n'aura pas votre chronique pendant 2 semaines. On va faire comment ?
Eh ben, je suppose qu'on va demander aux gens de se calmer un peu, hein, et qu'on se remette au sérieux, arrêter un peu les conneries et remettre Sébastien Lecornu à sa place entre le canapé et la table basse. Non mais sérieux, je sais pas qu'il déplace à chaque fois, mais c'est infernal, j'arrive jamais à le retrouver après. La dernière fois, j'ai mis au moins 40 minutes à remettre la main dessus et en fait, il était dans la poubelle de la cuisine. Donc sérieux, laissez tranquille Sébastien Lecornu, histoire qu'on arrête de se marrer pendant 2 semaines.
Très bien, d'accord, pas touche à Lecornu, mais on fait quoi aujourd'hui ?
Aujourd'hui, Richard, on fait la fête ! Oui, on fait la fête parce qu'enfin il est de retour, Guess Who's Back, back again, he's back, tell your friend, Guess Who's Back, Guess Who's Back, Guess Who's Back, Guess Who's Back,
Guess Who's Back. Jésus et Pâques, c'était il y a 3 semaines, Alexandre. Hein.
Jésus ? Mais non, c'est encore mieux, c'est Nicolas Sarkozy. Je sais pas bien comment vous dire. Bon, alors j'ai eu le procès, très bien, pas de souci. Procès, j'ai l'habitude. C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Enfin, je sais pas si on a encore le droit de dire singe, parce qu'aujourd'hui on n'a plus le droit de dire nègre. Enfin, bref, à propos de tout ça, ils m'ont ressorti Kadhafi sur le tapis volant, là. Donc je suis allé en prison le temps d'écrire mon livre. Je me suis fait 300 000 balles, et ensuite je suis ressorti de prison. Puis je suis allé voir mon fiston Louis. Bonjour, papounet. Votre mine est tellement effroyable qu'elle est à peine effroyable. Je ne savais pas qu'un livre pouvait avoir un tel coût. Ben là, moi, j'ai pas tout compris. Hein. Puis je suis allé voir Julia. Bonjour, Paps. En ça, j'ai fait les Vladessi 7 à l'époque, mais voilà, ça m'a bien gavé. Tiens, vu le tastic roustique que j'ai acheté, il est guess de ouf. T'as l'air gravion, t'as pris moins 1000 euros depuis la tôle. Ah, voilà, alors j'ai pas tout compris non plus. Je suis allé voir ma femme, Carla. Bonjour, ma chérie.
My Jordan Bardella mi ha rubato il posto dell'italiana della presidente. Lo ammazzo questo figlio de puttana. Acque espresso per Ericciotti, il dolce de Paco Rabanne. Poltrone sofa, artisan della qualità.
Allez, j'ai pas tout compris non plus. C'est que je parle pas italien, moi. Je préfère parler vrai au français. Alors, je suis retourné à mes activités habituelles. Footing sur la plage, nouveau procès. Eh oui, alors, nouveau procès. Et ce coup-ci, Pascal Praud, il a chaud derrière. Bah oui. Comment CNews va-t-il bien faire pour pouvoir dire que Sarkozy, il est innocent de tout, qu'il est la victime des juges rouges, quand Claude Guéon vient de se retourner contre son ancien patron en l'accusant sur son lit de mort d'avoir exigé de lui qu'il amnistie un terroriste libyen? Aïe, 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 ça sent mauvais. Peut-être Claude Guéon, d'ailleurs. Ouais, c'est lui. Ah, poussez-vous, Claude. Bon, bref. Ouais, c'est la mouise. Sarko sue, il pue, ça pue, et puis ils vont bientôt peut-être revenir en prison. Ce qui devrait beaucoup vous inquiétez, chers auditeurs. Bah oui, ça veut dire que je vais être absolument obligé d'en parler tout le temps et de reprendre mes imitations.
Sans parler du second bouquin. Mais sinon, oui. À propos d'imitations, vous en avez d'autres, Alexandre ?
Oui, alors il y en a une qui m'a été beaucoup demandée dans le chat. En plus, c'est vrai, mais vraiment, pour le coup. Mais j'ai longtemps hésité à la faire parce que c'est quand même pas très gentil. Mais bon, après, il aime bien la liberté d'expression. Donc je me permets un peu d'imiter Philippe Bilvert, que j'ai reçu ici sur Radio Courtoisie. On a parlé de CNews, c'était super.
On arrête 2 secondes de se faire des ennemis partout, hein, Philippe, si vous nous écoutez. Bon, sinon, vous voulez rendre hommage à un véritable homme de génie aujourd'hui.
Oui, alors, vous voyez, je suis un petit peu surpris. Moi-même, j'aurais jamais pensé rejoindre ce personnage sur tant de choses, mais je dois admettre que stratégiquement, j'ai jamais vu un tel coup. Alors, chers auditeurs, dans la droite ligne de Brice Couturier, Raphaël Enthoven, Caroline Fourest, Christophe Barrier, Prisca Thévenot et tant d'autres, je voudrais rendre hommage aujourd'hui à Emmanuel Macron. Alors, vous savez, devant le génie d'Emmanuel Macron, hier, je m'en suis allé relire les meilleures pages de Brice Couturier. Alors, Brice Couturier, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un peu le Pierre Palmade du macronisme. Alors, je précise que quand même, que contrairement à l'autre, il ne tue pas les bébés en voiture au retour de ses soirées chemsex, quand même.
Il y a du monde dans les réunions publiques, il y a du monde dans les soirées Beaujolais, il y a du monde dans les soirées chemsex. j'allais dire dans les soirées chemsex, ça n'a rien à voir.
Non, ça c'est juste gratuit, je voulais juste avoir cet extrait une fois par chronique, au moins maintenant, mais bref. Donc, Pierre Palmade, Brice Couturier, voilà. Et donc déjà les deux ont à peu près la même tronche de poule, je trouve. Et puis c'est assez peu vif finalement dans le regard, mais leur plus gros point commun, c'est leur goût fort prononcé pour la genuflexion devant des personnes qu'ils apprécient très, très, très fort. Les principales différences, c'est que pour Brice Couturier, cette personne est surtout Emmanuel Macron, et ensuite qu'il a le supplément massage épicé sauce thaï. Donc en fait, Brice Couturier, c'est un petit peu Pierre Pommade.
Eh ben la vache. Heureusement que vous trouvez quand même de quoi rebondir sur vos blagues affreuses et salaces. Mais à part ressembler à Pierre Palmade, qu'a donc Brice Couturier ?
Ah, et ben c'est quand même l'auteur d'un excellent ouvrage que je recommande à tous, Macron, un président philosophe. Donc je l'ai relu pour la 11e fois hier et je dois admettre que je trouve ça franchement brillant. Donc il est sorti en 2017 ce livre, juste après l'élection présidentielle, et il faut dire qu'il est carrément prophétique. Si ça vous convient, je vais vous en lire quelques extraits, c'est des vrais extraits du livre, hein, page 22 par exemple. C'est sans doute que la boîte à outils conceptuelle d'Emmanuel Macron était plus étoffée que celle de ses adversaires. Son expérience de la philosophie en particulier s'est révélée un atout déterminant, le dotant d'une boussole qui lui a permis de se repérer dans la turbulence. On n'est jamais trop cultivé pour faire de la politique en temps de crise. Certes, Emmanuel Macron ne se présente pas comme un philosophe, mais comme notre dirigeant politique suprême. Mais à étudier de près ses discours, ses articles, ses interviews et son livre programmatique, il est évident que sa pensée politique est abreuvée à des sources philosophiques. Et pourquoi vous rigolez là ? Non mais enfin, c'est vraiment écrit dans le livre de Brice Couturier. Hein. Enfin, oh bon. Alors je me demande effectivement si Macron n'est pas un peu trop cultivé quand même. Il a raison, mais donc, je continue, page 25. Ce qui est le plus frappant chez Macron, c'est le niveau de réflexion en amont de l'action politique. Elle porte en tout premier lieu sur l'articulation des temporalités. Et là, on peut qu'applaudir. Un exemple très concret.
Je repense aux vœux que je vous présentais à la même heure il y a un an. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays?
Et oui, qui aurait pu prédire? Non mais, oh, non mais stop là, je peux citer Brice Couturier tranquillement ou pas? Bon, page 30 maintenant. Si Emmanuel Macron a cependant convaincu un nombre suffisant de Français pour l'emporter sur ses rivaux, c'est parce que le public a senti obscurément que sa feuille de route s'appuyait sur une pensée personnelle, riche et complexe. À la différence d'un François Hollande ou d'un Nicolas Sarkozy, Macron dispose d'une colonne vertébrale théorique impressionnante. Sa pensée est structurée, elle vient de loin. C'est à partir de ce socle idéologique, selon son expression, que le candidat avait élaboré son plan de redressement du pays. Voilà, donc si les gens ont voté pour Macron, effectivement, faut le remarquer, c'est parce qu'il avait un raisonnement extrêmement brillant, à la pensée structurée. Oh ! Bon, non mais... Non, bon, allez, ça suffit, hein. Je peux pas poursuivre dans ces conditions. Si tout le monde se moque de moi comme ça, c'est insupportable.
Non, non, restez, Alexandre. Mais dites-nous plutôt comment vous avez compris qu'Emmanuel Macron était si génial.
Bah, je dois vous avouer que ça m'a sauté aux yeux l'autre jour, d'un coup comme ça. En fait, avant, je le trouvais vraiment très nul, hein, comme vous, chers auditeurs, mais je dois avouer que, vous regardez la dette, l'immigration, les divisions du pays, c'était la cata, quoi. Mais honnêtement, le coût du prix des préservatifs, c'est très, très, très fort. Oui, alors je sais pas si vous avez vu passer cette info, chers auditeurs, mais le prix des préservatifs va augmenter de 30% à cause de la guerre en Iran. Vous faites pas encore le lien ? Bon, est-ce que vous vous rappelez de ça maintenant ?
Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique.
Vous voyez toujours pas ? Qui dit guerre en Iran, dit préservatif cher. Qui dit préservatif cher, dit moins de préservatifs. Qui dit moins de préservatifs, dit plus d'enfants. Qui dit plus d'enfants, dit réarmement démographique. Donc franchement, non, mais utiliser la guerre comme moyen de limiter le tout contraceptif, je trouve ça franchement génial. Hein. Le type a quand même eu 5 ou 6 coups d'avance, on peut pas lui enlever ça, franchement, c'est brillant. Et puis, ouais, le problème avec cette affaire, c'est que si les préservatifs deviennent trop chers, des types comme Pierre Palmade, Brice Couturier ou Gabriel Attal risquent de s'en reprendre vraiment plein la figure, littéralement.
Alors, je vais réciter un chapelet après l'émission pour être certain que personne n'a rien compris à vos blagues atroces. Mais maintenant que vous parlez de Gabriel Attal, comment va-t-il ?
Arrêtez, c'est trop dur. Non mais voyez-vous, tout le monde se moque de lui à cause de sa petite coquille d'œuf sur la tête là. Enfin bah oui, le pauvre petit poussin noir. Pauvre Gabriel Attal.
Enfin, de quoi vous parlez là ?
Non mais je dois tout vous avouer, je fais rien d'autre que pomper les blagues de Xavier Von Lierd.
Non, Gabriel, il fait que se plaindre. C'est un vrai caliméro le garçon. J'ai l'impression d'entendre ouin ouin à chaque fois qu'il ouvre la bouche. C'est fatigant.
Aïe, ma gorge. Donc faut vraiment que je me mette à fumer 3 paquets par jour si jamais je veux un jour arriver à bien imiter Xavier. Enfin, cela étant, il a pas tort. Là, Attal, il a une stratégie de campagne, c'est affligeant. Hein. En gros, il sort un bouquin, c'est jamais que le 104e livre politique de l'année, après tout. Et puis tout ce qu'il fait, c'est expliquer qu'il subit de l'homophobie du matin au soir. C'est un peu son « Je suis lesbienne » de Lucie Castet. Ouin, non mais c'est quoi sérieux, c'est quoi cette méthode de campagne nulle là, ouin, là, son slogan c'est le candidat victime. Le type est fils de grand bourgeois, il a fait l'école alsacienne, donc vraiment, dans le top de ce qui se fait en privilégié en France, hein, il trouve le moyen de chouiner à cause des commentaires sur les réseaux sociaux. Ah mais oh, Gabi, tu sais que ça va être difficile si jamais t'es président? Tu sais, il va falloir passer à autre chose, là, il commence à encaisser, parce que là c'est pas grand chose. Hein. Comment ça va se passer quand il y aura 100 000 personnes dans la rue pour dire qu'il est nul? Il va dire que les Français, ils sont méchants avec lui. Et il faut muscler un peu le mental, là-haut. Surtout que, bon, après l'histoire Bardella, Maria Carolina, le truc Attal séjourné, il faut admettre que c'est moins marrant comme coupe présidentielle. Eh, pour la première dame, on aura le choix entre une princesse d'extraction royale et un premier homme bourge dyslexique qui parle pas anglais et qui a commencé sa carrière avec Dominique Strauss-Kahn. Enfin, pardon, de mon côté, la question est quand même vite répondue. Hein. Voilà, pour conclure, j'aurais pu aussi vous parler aussi de ce célèbre vidéaste de gauche, ça c'est vrai pour le coup, un célèbre vidéaste de gauche qui a déclaré devant toute sa communauté être fier d'avoir pratiqué des actes fellatoires auprès de personnes à l'hygiène douteuse en échange d'héroïne. Mais à ce stade, je sais même plus quoi dire, les blagues s'écrivent toutes seules, donc bon petit déjeuner à tous.
Merci beaucoup Alexandre Degagin.
Ligne droite, l'analyse.
Et nous accueillons avec plaisir et même avec bonheur Xavier Aimant, journaliste, rédacteur en chef de la revue Élément, auteur des excellentes
chroniques
d'une fin du monde sans importance, dont le troisième tome vient de paraître. Et je tiens à vous faire mes excuses les plus plates dans la critique élogieuse que j'ai écrite de votre livre. J'ai choisi comme illustration le tome 1 de vos chroniques et non pas le tome 3.
Le tome 2 même.
Le tome 2, voilà. Donc,
mais vous êtes excusé. Voilà.
Donc, ouais. Comme quoi j'ai un certain retard, mais c'était bien le troisième que j'avais lu. Vous voulez nous parler de la manière dont il y a effectivement une crise écologique en France, mais qu'il y a en fait une farce écologiste dans la manière de prendre en compte cette crise et de proposer de fausses solutions.
Exactement, je voulais vous parler un peu d'écologie. Alors, vous le savez, c'était un sujet qui me tient à cœur, mais qui a parfois, hélas, assez mauvaise presse à droite. Alors, pour rappel, selon des études de l'INRA, entre 15 et 20% des décès en France seraient dus directement ou indirectement à l'industrie agroalimentaire. Parallèlement, l'air, les sols et les eaux sont toujours plus pollués, entraînant la disparition de dizaines d'espèces animales et végétales. On estime par ailleurs à environ 40 000 par an le nombre de décès prématurés dus aux particules fines. Sans compter la multiplication des maladies respiratoires chez l'enfant et des infarctus, AVC et autres cancers du poumon d'origine environnementale chez l'adulte. Alors tout cela n'est pas très réjouissant, mais que nos auditeurs se rassurent. Nous avons en France la chance d'avoir des élus écologistes, et ceux-ci ne restent pas inactifs, loin s'en faut, face à ces terribles maux et dangers qui planent sur notre avenir. C'est notamment le cas de Johanna Roland, maire écolo fraîchement réélue à Nantes, qui a courageusement lancé le 22 avril dernier, donc c'est tout récent, l'opération « Plante ton slip ». Alors Richard, savez-vous ce que c'est cette fameuse opération Plante ton slip?
Eh bien je pense que c'est directement issu des conseils de l'ADEME avec un peu de chance.
Bravo, bravo, alors vous savez tout, c'est terrible. Eh bien en effet, derrière cette élégante dénomination, il s'agit d'une idée inspirée par l'agence de transition écologique et consistant à enterrer des sous-vêtements en coton pour mesurer l'activité biologique des sols. Alors le concept est assez simple, on enterre un slip, bon, ou une culotte, voire un string, hein, pas de discrimination de genre ni de goût, s'il vous plaît, c'est pas le genre de la maison. 100% coton, blanc, idéalement bio pour éviter les résidus chimiques, à plat, à environ 15 cm en profondeur dans le sol, on marque l'emplacement et on laisse reposer le tout environ 2 mois. Ensuite, on déterre l'objet pour observer son état de dégradation. Plus le slip est décomposé, grâce aux bactéries, champignons et autres micro-organismes, plus cela indique une bonne activité biologique du sol. Et là, on est content. Bah par contre, s'il reste quasiment intact, le sol est considéré comme moins vivant. Alors, on peut réutiliser le slip, mais c'est mauvais signe pour notre sol. Ainsi, la ville de Nantes prévoit donc d'enterrer 29 slips en coton dans des parcs, jardins partagés et autres potagers de la ville. Les slips seront récupérés en juin, afin de les exposer et d'ainsi illustrer l'activité de ces fameux micro-organismes. Alors nul doute qu'après cette magnifique opération de sensibilisation, le citadin nantais va enfin prendre conscience de l'urgence écologique qui jusque-là lui paraissait peut-être un peu moins pressante que celle d'échapper aux tirs de Kalachnikov, des dealers et autres trafiquants qui mettent la ville en coupe réglée. Alors un autre exemple, si vous voulez bien, un exemple choc lui aussi du travail de nos élus écologistes pour sauver la planète, cette fois à Lyon. Alors en effet, dans la capitale des Gaules, le maire, lui aussi récemment réélu, Grégory Doucet, a pris également une mesure courageuse et urgente. Il a augmenté ses frais de représentation de 400%, ceci passant de 3 000 à 15 000 euros. Alors cette indemnité comprend les frais de restauration et de réception, les frais de taxi, de péage, de stationnement ou de carburant, et les frais d'habillement. Alors pour justifier ce bond assez spectaculaire, jugé même outrancier et indécent par l'opposition, la majorité écolo argue que 15 000 euros par an pour une ville de plus de 500 000 habitants, c'est très raisonnable, et qu'il avait été constaté dans le mandat précédent, que l'enveloppe de 3 000 euros n'était pas tout à fait suffisante. Alors peut-être, cela peut éventuellement se discuter, mais on pourra quand même trouver assez curieuse une telle priorité pour une majorité municipale qu'on imaginait plutôt promouvoir la sobriété et la frugalité, voire la décroissance. Enfin, quoi qu'il en soit, le décalage complet entre la gravité des problèmes écologiques et le ridicule de l'agitation démagogique et communicationnelle des élus et militants gaucho-libertaires de l'écologie dite politique est chaque jour plus criant et accablant. Indiscutablement, l'écologie est un sujet bien trop important et sérieux pour être confié aux écologistes. En tout cas à ceux qui usurpent ce nom depuis de trop nombreuses années et ont réussi à en faire un véritable repoussoir pour un très grand nombre de Français, et notamment à droite, alors que la défense de notre environnement, de la biodiversité et de la qualité de notre alimentation est, il faut le marteler, une dimension fondamentale du combat identitaire.
Merci beaucoup Xavier Aymon. J'avais l'image mentale, et ça m'a un peu perturbé pour écouter la fin de votre chronique, du conseil municipal de Nantes se déculottant publiquement pour enterrer dans une vaste fête populaire et publique l'ensemble de leurs culottes en coton et peut-être aussi string et autres sous-vêtements dont je n'imagine pas la nature immédiatement. Et voilà,
je comprends que vous ayez été troublé par
le côté sans culottes. Vous voyez, c'était voilà.
Une grande fête sans culottes. Citoyenne participative, en effet. Alors, je pense qu'il vaut mieux des slips quand même propres, hein, pour que l'expérience soit totalement réussie, pas qu'il y ait déjà des bactéries autres que les bactéries du sol qui s'y attaquent.
Et en même temps, voilà, le fait d'exhiber cette espèce de misère du conseil municipal de Nantes, dont les frais de représentation n'ont pas été augmentés, mais qui d'ailleurs peut-être le serait à l'issue de chacun exhibant sa culotte un peu souillée, son caleçon un peu troué, voilà, en brandissant en disant je crois au coton, enfin non, il y avait on aimerait bien un film des années 70 qui commencerait comme ça, un film de Jean-Yann, voilà, où qui nous montrerait la véritable marche d'une espèce de révolution écologique.
Non, mais peut-être qu'on a déjà le scénario de votre prochain ouvrage, Richard
Dessay. Non, je pense qu'on a le scénario de la prochaine nouvelle.
Ça pourrait en effet faire un bon sujet de chronique. de chronique, oui, d'une fin du monde, puisque là c'était déjà une chronique, si je puis dire.
Juste sur le fond, alors c'est très dur de passer des slips troués au sujet de fond, mais cela étant, quand vous expliquez, Xavier Aymon, que les écologistes effectivement usurpent l'écologie, ce qui est partiellement vrai, parce que d'un côté, certains portent un peu sérieusement ce combat pour notamment sur les sols, évidemment, dont vous parliez au début, mais d'un autre côté, c'est surtout parce que la droite n'a jamais été présente sur le sujet jusqu'à la nouvelle droite, d'ailleurs, dans les années 2000, si je ne m'abuse, auparavant, c'est un sujet qui n'a jamais été pris de près ou de loin en compte par la droite.
Oui, alors, si vous voulez, je pense, en fait, la situation actuelle, le fait que l'écologie soit très majoritairement usurpée par, en effet, cette écologie dite politique, qui est, en fait, un ramassis de gauchistes pour lesquels l'écologie n'est qu'un cache-sexe pour faire avancer les thématiques, on en revient toujours à ça, pour faire avancer les thématiques LGBT, wokistes...
Bah c'est l'écoféminisme, de toute façon.
Etc. Ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde parce que ça leur sert de rente électorale et ça permet surtout qu'on parle pas des vrais problèmes. Et notamment la droite, ça l'arrange parce que ça permet de pas parler du vrai problème, qui est le système technocapitaliste et productiviste. Parce que la base de l'écologie, si on y réfléchit deux minutes, c'est quand même ça.
Oui.
Et la droite n'est pas prête, le moins du monde, à remettre en cause, même de façon infinitésimale, le fameux système capitaliste. Et dans ce cas-là, elle ne peut pas avoir de véritable préoccupation écologique, c'est pas plus compliqué que ça.
Je voudrais quand même, quand vous dites la droite, on parle bien de l'UMP, de l'UDR, enfin le vieil UDR.
Même du RN, de Reconquête.
Même une partie de la droite nationale.
Voilà, au XXe siècle, le mouvement de résistance à la technologie galopante, c'était la vraie droite. La gauche était une gauche techniciste, une gauche machiniste, une gauche qui considérait que l'industrialisation était une émancipation, qu'au contraire, le monde paysan était un monde farci d'obscurantisme et de traditions malvenues, et c'était ce monde-là que défendait la droite. Je me souviens même de quelque chose que j'ai appris assez récemment, donc c'est normal que je m'en souvienne. Les parcs naturels en France sont une invention en fait de militants de droite, qui est d'ailleurs profondément inspiré par Gustave Thibon, qui défendent ce qu'ils n'appelaient pas d'ailleurs des parcs naturels, mais des réserves naturelles, mais plutôt, j'ai oublié le terme exact, mais ce n'était pas la nature qui était mise en avant, c'était la tradition. Et donc l'idée, c'était de préserver des paysages qui étaient des paysages modifiés par l'homme. C'est-à-dire, l'idée, je me demande même si ce n'était pas des parcs traditionnels qui étaient, ou des parcs culturels, voilà, ça devait être le mot parc culturel, qui était envisagé, non pas pour préserver une nature sauvage, là qui est vraiment l'optique protestante aux États-Unis, où là il s'agit de sanctuariser des espaces en faisant en sorte non seulement que l'homme n'y pénètre pas, mais même d'en éradiquer toutes les traces humaines. Non, les parcs culturels tels qu'ils étaient imaginés en France, donc une fois plus par des gens de droite, c'était une espèce de conservatoire des mœurs paysannes,
oui,
où il fallait au contraire préserver le moindre muret, la moindre auge, le plus petit des lavoirs, pour bien montrer comment est-ce que une civilisation avait réussi à bâtir un rapport à la nature. Voilà.
Et moi, je pense
cette
que c'est
droite-là,
ça, la véritable écologie,
et la vraie droite.
La véritable écologie, c'est celle-là, c'est celle de la coexistence, de la coexistence entre l'homme et la nature, et la façon dont ça peut se faire de façon équilibrée. C'est pas du tout celle d'une primauté de la nature qui serait pure et qu'il faudrait préserver telle quelle de façon absolue. Évidemment que c'est la place de l'homme qui nous intéresse aussi au sein de cette nature et son rapport, je dirais, apaisé avec son environnement. Mais vous avez tout à fait raison. Quand je dis la droite ou que je parle de la gauche, je parle des partis politiques actuels, hein, évidemment, qu'il y a, mais à la gauche aussi, hein, il y a aussi eu des traditions écologiques véritables qui n'étaient pas encore totalement détournées de leur fonction première. On peut penser ne serait-ce qu'au phénomène de retour à la terre, des phénomènes des néo-ruraux, etc., qui étaient qui avaient quand même une soif de retour à la nature, même si ça a fonctionné plus ou moins bien, plutôt moins bien. Mais aujourd'hui, la véritable écologie, elle est, à mon avis, retournée dans les marges, que ce soit à gauche, où il y a en effet aussi des vraies écologies, et à droite, dans des marges, parce que justement, le vrai problème, c'est cette remise en cause du système capitaliste. Et personne n'en veut. La problématique écologique, elle est de sortir de l'idée que l'on peut croître et produire chaque année plus dans un monde fini. En dehors de ça, tout le reste, ce sont des discours. Mmh. Voilà, on pourra repeindre tout ce qu'on veut en vert, tant qu'on sera enfermé dans un système qui veut que chaque année, il y ait plus de production de biens et de services que l'année précédente, dans un monde qui est fini, on court à la destruction de la planète.
Mais le problème, c'est que là, on entre dans un... Pour moi, il y a deux blocages principaux qui empêchent, je pense surtout la droite nationale aujourd'hui, un bon tiers du pays, d'adhérer de près ou de loin à des idées écologiques, quoique les électeurs soient plus écolos que les dirigeants des partis souvent. Mais c'est un, le fait que comment renoncer au capitalisme alors que le niveau de vie se dégrade.
Bien sûr.
Et la deuxième question, c'est la question que d'aucuns appellent celle du carbocentrisme, qui est le fait qu'effectivement le camp national est un camp qui est en rupture avec le système établi depuis 40 ans en France, et que ce système est un système qui a capté tellement de détestation et une gestion tellement technocratique même de l'écologie qu'ils en ont effectivement dévoyé l'idée même d'écologie. Je pense simplement, donc, le carbocentrisme, c'est l'idée selon laquelle Les politiques écologiques sont centrées exclusivement autour de la question des émissions de carbone. Rappelons que la France ne produit que 0,7% des émissions de carbone au niveau mondial. Certainement qu'il y a d'autres préoccupations à avoir que la décarbonation, quelque part. Et ça se répercute encore une fois au niveau européen, où là, pour le coup, on a des politiques, encore une fois, extrêmement technocratiques qui sont mises en place, et on fait des accords de libre-échange avec le monde entier en parallèle. Enfin, une énorme hypocrisie. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que c'est ces deux problèmes. Donc, baisse du niveau de vie, et incompatibilité de croissance, enfin impossibilité de faire de la vraie croissance verte, et deux, carbocentrisme qui bloque vraiment au niveau de la droite nationale.
Oui, je suis d'accord avec vous, sachant qu'en plus, la problématique des partis politiques électoralistes, elle est aujourd'hui des problématiques à court terme. À moyen terme, dans le meilleur des cas, mais en général, uniquement à court terme, et le court terme, c'est l'élection prochaine. Et en effet, un parti qui, par exemple, présente un député dans un département où il y a beaucoup d'agriculteurs qui utilisent énormément de produits phytosanitaires parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement dans la situation actuelle, et que ces agriculteurs sont son électorat de base, eh ben, il ne va pas défendre à l'Assemblée une loi interdisant ces fameux produits phytosanitaires, même si à terme, ces produits phytosanitaires sont dangereux pour la santé des gens, parce qu'en fait, l'électoralisme induit une pensée court-termiste et une pensée de clientélisme.
Et les sols se dégradent pas en 5 ans, mais en 20 ans, 50 ans, etc.
Bien entendu.
D'ailleurs, c'est le couple Bourguignon qui fait un immense
travail. Un travail sur la qualité des sols et sur la mort des sols.
Ouais.
Parce que certains sols sont quasiment morts aujourd'hui.
Ils sont déjà
en
morts. Voilà. Et d'ailleurs, il n'y a plus de microbiologie, si je ne m'abuse. La spécialité des Bourguignons est en train elle-même de disparaître.
Disparaître. Et c'est pour ça qu'il faut. Moi, j'ai pas de solution toute faite. Hein. Ce sont des problèmes tellement
Vous venez nous désespérer sans nous apporter de solution. Mais ne faites jamais de politique, Xavier. Ça marche pas comme ça.
Mais je crois qu'il faut y penser parce que on va arriver à des situations de gré ou de force, de difficultés écologiques graves, etc. Si on n'y a pas réfléchi avant, on va se retrouver bien dépourvu. Quand on parle de sortie du capitalisme ou du sortie, en tout cas, de la de la fuite en avant productivo-consumériste, tout le monde vous dit vous êtes un communiste, vous voulez revenir, on veut revenir à la lampe à pétrole. Donc au moment, évidemment, c'est pas très
surtout la lampe à pétrole,
c'est pas très glamour.
Alors je
voudrais, en ce moment, la lampe à pétrole, c'est pas
quand
vraiment
vous dites
le bon moment.
Vous voulez revenir à la lampe à pétrole, c'est exactement ce que dit Macron. Si vous vous souvenez, il y a quelques années, il expliquait.
Oui, il a dit que les décroissants étaient des gens qui voulaient revenir à la lampe à pétrole.
C'est excellent article à ce moment-là dans le journal Le Monde où quelqu'un prend l'exemple de la lampe à pétrole pour prouver qu'au contraire, la lampe à pétrole est typiquement un exemple de progrès absolument fascinant. Il analyse le nombre de dépôts de brevets sur la lampe à pétrole, donc des centaines de brevets sont déposés, l'industrie de la lampe à pétrole qui naît, qui crée une demande, et donc autrement dit, comme d'habitude, Emmanuel Macron avait complètement foiré son histoire. La lampe à pétrole n'est pas du tout le symbole du passé, mais au contraire le symbole d'une espèce de modernité triomphante qui annihile tous les marchés existants de la lumière domestique auparavant au profit de quelque chose d'extrêmement capitaliste avec énormément d'innovations techniques et qui fait en sorte, au contraire, de précipiter le monde dans une consommation énergétique absolument
qui est très polluante, parce que le nombre d'intoxications à la lampe à pétrole qui ont eu lieu justement à cette époque, c'est pour ça qu'il y a autant de brevets d'ailleurs qui sont déposés, mais c'est vrai que même la pollution est déjà présente dans la lampe à pétrole. Ne parlons pas de l'huile de baleine ou autre, dont les conséquences sont encore pires,
mais en tout cas, il me semble indispensable de penser cette possible sortie du système productif au consumériste, parce que on a réussi à imposer l'idée que le système dans lequel nous sommes, le capitalisme, est un horizon indépassable et qu'il n'y a pas d'alternative. Donc, tout le monde l'intègre et plus personne ne réfléchit à des possibles. Il ne s'agit pas de reprendre des vieilles recettes qui n'ont pas fonctionné par le passé. Il s'agit justement de penser des problématiques nouvelles. Et il me semble que personne ne fait vraiment cet effort, à part en partie à l'extrême gauche et dans certains cercles de la droite radicale, mais qui ont des publics très... très limité. Or,
pardonnez-moi, je voudrais quand même mettre en avant, par exemple, la manière dont certains paysans qui ne sont pas de la FNSEA sont contre une agriculture productiviste, sans pour autant tomber dans il faut que chacun ait son lopin de terre et le cultive. Et par exemple, ont abandonné le travail du sol avec X passages de tracteur au profit de on plante directement les graines là où le couvert végétal est déjà mis, et on plante des graines. des plantes qui ont une forte proportion à stocker l'azote pour que le sol reçoive un engrais naturel. Et donc, il y a peu à peu des solutions qui se dessinent. Le vrai problème, c'est que le seul remède au capitalisme, qui est la concentration des richesses dans les mains d'un petit nombre de gens, c'est que tout le monde devienne capitaliste, ou chacun étant propriétaire de son outil de travail. Et en fait, c'est ça la véritable révolution. C'est qu'en fait, l'État moderne qui s'est bâti sur l'assujettissement et même l'asservissement de l'ensemble des citoyens sous prétexte de les aider, ne peut pas leur accorder brusquement la véritable liberté qui serait qu'ils seraient libres parce qu'ils posséderaient leur outil de travail.
Voilà. Oui, c'est ce que dit Hélère Belloc en plus avec son distributivisme.
Bah ouais, je ne fais que parler à la place de Chesterton.
Oui, bah voilà, exactement. Mais enfin des anglais corrects. Mais cela étant, c'est exactement ce que dit Belloc dans son et Chesterton, ce qu'ils disent dans leur système distributiviste, qui en fait ils expliquent finalement que à la fin le capitalisme est aboli parce que justement tout le monde détient le capital et que finalement tout le monde est bourgeois. En fait, le capitalisme aura perdu quand tout le monde sera bourgeois parce que tout le monde détiendra son outil, selon les critères marxistes, parce que tout le monde détiendra son outil de production.
Oui, je pense que c'est important de rappeler que justement la critique du capitalisme, elle n'est pas uniquement une critique marxiste ou gauchiste. Et en effet, attaquer entre guillemets le système capitaliste, libéral, consumériste, productiviste, c'est pas, par exemple, nier la nécessité de la propriété privée. Bien au contraire, comme vous l'avez dit, il faut que la propriété privée soit beaucoup plus accessible. On voit bien aujourd'hui que ce système capitaliste rêvé, il fait des individus qui ne sont plus capables, ne serait-ce que d'avoir leur propre habitation pour leur logis. C'est-à-dire, on parle même pas d'avoir du terrain pour pouvoir le cultiver. On n'arrive même plus à avoir une maison d'habitation à soi. C'est ça le résultat du super libéralisme qui est censé promouvoir les individus. On voit bien déjà que même la promesse n'est pas
On vous dirait que c'est parce qu'il n'y a pas assez de capitalisme.
Oui, les libéraux vous diront toujours, c'est toujours pareil. Mais les communistes faisaient pareil. Oui. Quand on critiquait le communisme, on disait oui, mais c'est pas le vrai communisme, ou c'est pas le bon communisme, ou c'est parce qu'on n'est pas allé assez loin dans le communisme, et les libéraux vous disent exactement la même chose. Bon, je pense que
j'ai voulu monter un débat sur le capitalisme avec Jean-Frédéric Poisson, le capitalisme et le libéralisme. Donc je décroche mon téléphone, j'appelle des auteurs libéraux, et je leur dis voilà, je voudrais faire un débat sur le libéralisme, voici les critiques que Jean-Frédéric Poisson porte. Et il dit je suis tout à fait d'accord avec lui, et donc, le premier me dit ça, le deuxième, le troisième, c'est juste qu'en fait, il n'y a pas encore eu de véritable libéralisme.
Oui, donc, sûr, voilà, donc c'est exactement.
Tant qu'on n'a pas totalement aboli l'État, on ne pourra pas savoir comment ça marche. Oui, bien sûr.
Et alors qu'en plus, des expériences de libertarisme pur, il y en a quand même eu, notamment aux États-Unis, des villages totalement libertariens qui ont fait en général faillite où les gens s'entretuaient au bout de. Oui, il y a quelques exemples, là, ça ne me revient pas, mais c'est un sujet qui serait intéressant à creuser. Il y a eu des vraies expériences de libertarisme absolu où il n'y a plus de shérif parce que. En général ça a pas très bien fonctionné, mais en tout cas penser à ça en rejetant en effet l'idée que dès qu'on est anticapitaliste on est un horrible gauchiste, ça me paraît important à droite, parce qu'en effet, comme j'essaie de le rappeler, l'écologie c'est un domaine fondamental et fondamentalement identitaire, puisque c'est l'enracinement, puisque c'est le respect de notre environnement. Parce qu'on parle de pollution, on parle aussi de pollution visuelle, on parle aussi d'enlaidissement de notre... C'est ça aussi, le productivisme, le capitalisme, etc. Quand j'entends certains libéraux, qui sont des croyants, me dire « Mais de toute façon, vos histoires, ça compte pas, l'homme a une capacité d'adaptabilité infinie, on trouvera toujours des solutions, on va trouver des nouvelles sources d'énergie, ou alors on va conquérir des planètes, comme ça on pourra bien les exploiter et bien les dégueulasser, elles aussi, pour pouvoir continuer notre fuite en avant ». De consommateurs et de produits, je leur réponds, mais même en imaginant ça, qui est une pure croyance, hein, parce qu'il n'y a aucun élément tangible qui nourrit cette idée-là, mais on a le droit d'avoir cette croyance-là, même si on ne tue pas la planète par défaut d'énergie, on va la tuer par laideur, on va la tuer par bétonisation, on va la tuer par obésité, on va la tuer en créant des individus qui ne seront encore des homo economicus purs, qui n'auront plus que comme... finalité, la consommation, et je veux dire, c'est pas un avenir, même d'un point de vue, au-delà de l'aspect juste matériel, d'un point de vue spirituel et philosophique, le monde et l'homme que crée le capitalisme consumériste est absolument abject.
Mais Xavier Mont, l'argument que réplique évidemment l'intégralité des capitalistes libéraux, c'est que justement c'est le capitalisme qui a permis de sortir des milliards de personnes de la misère.
Oui, mais peut-être que on a eu une étape de capitalisme nécessaire et qu'il faut passer à autre chose.
Moi, non, mais surtout, ce qu'on appelle capitalisme, une fois plus, c'est la concentration des richesses dans un très petit nombre de mains.
Il y a plusieurs âges du capitalisme.
Et l'utilisation des moyens richesses qui peut être transformée en valeur pécuniaire et où du coup, parce que c'est deux choses différentes. De posséder ce qu'on pourrait appeler un capital, c'est-à-dire je possède ma terre, je possède ma maison, je possède les instruments pour cultiver cette terre, je possède je possède des métiers qui me permettent de transformer des matières premières, et le fait qu'il y a un moment donné où tout devient échangeable parce qu'à un moment donné, on pose une équation, n'importe quel bien a une valeur monétaire et qui me permet justement de la vendre indépendamment de l'usage que j'en fais et de l'usage nécessaire qui peut en être fait indépendamment de la propriété collective de certains biens, puisque il arrive qu'on considère que le ruisseau n'appartient pas à un tel ou un tel, mais qu'il appartient à la communauté. Et donc le capitalisme, c'est une perversion de la richesse, c'est une perversion de la propriété privée.
Oui, et d'autant plus dans un cadre de plus en plus mondialisé et internationalisé. Le problème, il est là aussi, c'est que par exemple, si on veut vraiment imposer une amélioration, par exemple, de notre alimentation, de notre agriculture, il est évident qu'il faut sortir de la mondialisation, parce qu'on ne peut pas d'un côté interdire à nos paysans d'utiliser des saloperies qui tuent les sols, mais qui permettent d'avoir de la productivité, et dans le même temps importer des produits d'Amérique du Sud avec le Mercosur, qui est l'acte d'assassinat des restes de notre paysannerie. Ça, il faut quand même le rappeler.
Et d'ailleurs, on voit qu'il y a eu un mariage pendant quelques années entre identitaires et libéraux sur toute une période, pendant 4-5 ans après la mort du souverainisme en tant que production d'idées, enfin en tout cas son déclin. Là, on observe que maintenant ce divorce revient parce qu'effectivement, la logique finale de ce système, ça reste l'interchangeabilité d'absolument tout et le fait que, si jamais les paramètres économiques ne sont pas réunis, il faut plus d'immigration, il faut plus de transformation, etc. Il y a aussi un autre point qui peut-être est intéressant, je trouve, c'est vous parlez de la question de l'obésité, mais en fait la question de la santé en général, qui en fait est une manière positive et en plus économique de parler à la fin d'écologie. C'est-à-dire que la France est un des pays d'Occident dans lesquels il y a le plus faible taux d'obésité. Je crois doit être deuxième ou troisième dans tout l'Occident. D'une certaine façon, de meilleurs produits, c'est donc moins d'obésité et c'est également évidemment moins de coûts pour la sécurité sociale, une économie en meilleure forme, des gens qui travaillent plus, qui travaillent mieux en tout cas. Donc finalement, en fait, en taxant le sucre, finalement à la fin on a des revenus dans bien d'autres des domaines finalement.
Non, mais l'alimentation, c'est évidemment une question absolument centrale et qui en effet doit toucher tout le monde, parce que en effet, on est sur l'obésité, on n'est pas trop mal, mais sur les maladies cardiovasculaires, la multiplication l'explosion du nombre de cancers, etc., d'origine alimentaire ou environnementale, là, on est dans les moyennes occidentales. Donc, il y a des vrais problèmes.
Et même les dépressions aussi.
Il y a des vrais problèmes de santé publique. Oui, et parce que ça aussi, c'est des aspects qu'on à mon avis, qu'on écarte le fait de vivre dans des environnements pollués, c'est mauvais pour la santé physique, mais c'est aussi mauvais pour la santé mentale. Quand vous voyez certaines constructions, certaines cités, etc., on peut pas vivre correctement dans ce genre d'environnement. Entouré de la laideur, ça influe sur le psychisme, etc. Donc, il faudrait une vraie politique générale écologique. Elle doit penser aussi architecture, urbanisme, tout ça, ça fait partie d'une vision, d'une vie saine et d'une vie bonne, et qui devrait être la préoccupation aussi des politiques, et pas juste, vous allez avoir 2% de plus, ou vous allez pouvoir avoir un impôt qu'on va vous retirer là, mais de toute façon, qu'on va vous remettre là. Il faut penser à ça, à mon avis. On est dans une époque qui est charnière, là. Les choses sont encore possibles, dans 20-30 ans, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. On voit déjà à quelle vitesse les choses sont allées. Moi, mes parents me racontaient qu'ils pouvaient boire l'eau des rivières quand ils allaient se promener en forêt, en Ariège, etc. C'est absolument impossible. Aujourd'hui, on peut même plus s'y baigner. C'est-à-dire, on n'imagine même pas la boire. Et ça, en quelques dizaines d'années. Et si on ne fait rien, c'est un suicide. C'est vraiment un suicide. Et quand on me dit, oui, c'est utopiste de penser sortir du capitalisme tel qu'on l'a défini, c'est-à-dire libéral, mondialisé, productiviste, Je dis, mais peut-être, parce qu'on n'a en effet pas encore établi un système qui pourrait le remplacer. Mais en tout cas, c'est pas plus utopiste que de penser qu'on va continuer comme ça et que tout va bien se passer. Hein. Ça, c'est sûr.
Richard, vous vous rappelez de votre jeunesse où vous buviez l'eau de la Garonne
Alors, je buvais l'eau de la Garonne parce que je m'y baignais et qu'évidemment je buvais la tasse, mais surtout je me rappelle de toutes les randonnées dans les Pyrénées où voilà, il y avait tout un tas de petites de ruisseaux, etc. On faisait juste attention qu'il n'y ait pas un troupeau de moutons un peu en amont, voilà. Parce que,
prudence élémentaire.
C'est une bonne manière de se rendre malade, mais non, mais c'est là encore, je bénéficie d'une rivière au pied de chez moi et je m'y baigne.
Et ben, vous avez...
c'est un spectacle qui enchante les rossignols.
Ah ben, ils en ont de la chance. Mais autre point sur ceux qui effectivement même sont dans la négation des changements de biodiversité ou climatique ou autre. Deux points très rapides. Les moustiques sur les pare-brises. Il y a je sais pas combien d'études qui ont été faites. Vous conduisiez votre voiture pendant 500 km il y a 20 ans en France. Moi je me rappelle de mon père dans ma tendre jeunesse qui effectivement nettoyait le pare-brise pendant une heure après chaque voyage en pestant parce qu'effectivement il y avait je sais pas combien d'insectes qui s'étaient écrasés. Et puis même sur le réchauffement climatique, j'ai déjà pu discuter avec des agriculteurs et viticulteurs du sud qui disent que en fait leur vin a pris 1% d'alcool.
Ça c'est très clair.
Et quand on défend le patrimoine, quand on défend les vraies choses qui importent aux Français, quand on défend le pinard,
on ne veut pas du vin qui ressemble à du Porto.
Ben ouais. Non, voilà,
exactement. Non, mais il y a plein d'exemples. La disparition des moineaux. Donc il y a plein de.
Des abeilles.
Il y a des éléments qui sont absolument indiscutables.
Oui. Ouais.
Eh bien, merci beaucoup Xavier Aymon de nous avoir livré cette analyse des sous-vêtements du conseil municipal de Nantes. voilà, donc je rappelle à tous les auditeurs que 29 slips sont enterrés dans la ville de Nantes, que c'est une vaste chasse au trésor à laquelle vous êtes conviés. J'appelle à un rassemblement de tous les auditeurs de Radio Courtoisie armés de pelles et de pioches pour aller déterrer les slips avant que les deux mois ne soient écoulés. Merci beaucoup Alexandre de Galzin et on attend avec impatience la nouvelle que vous allez en tirer, Xavier. Et tout de suite, Jérémy Combe va nous parler de politesse.
Aider Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Jérémy Combe.
Bonjour Richard, bonjour à toutes et tous.
Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très factuel que l'on rencontre souvent, celui de féliciter ou de parler d'une naissance. Et c'est vrai, parfois, on peut être maladroit.
Déjà avant la naissance, il faut entourer les futurs parents et surtout la maman avec une ambiance joyeuse, des rires et beaucoup de bienveillance. Il y a beaucoup de stress pendant les grossesses. On ne parle pas de ces problèmes à une future maman et encore moins à quelques jours du jour J. On est à l'écoute et on est léger. La naissance d'un enfant est une sorte de bénédiction pour tous. Il s'agit de faire de la période une parenthèse douce. Vous savez de quoi je parle, les filles ? S'organiser lorsqu'un nouveau-né s'annonce n'est pas si facile pour les parents et surtout lorsqu'il s'agit du premier enfant. Aussi, les proches se doivent de leur faciliter le plus possible la vie. Alors comme je suis d'humeur généreuse aujourd'hui, je vais vous donner quelques bonnes manières, à ne pas commettre.
Alors, comme nos auditeurs, je suis très preneur de vos recommandations.
En premier lieu, il est conseillé, sauf pour le premier cercle, de ne pas aller rendre visite à l'hôpital ou à la maternité. Je sais, moi aussi, nous sommes souvent impatients de découvrir le trésor dont on parle depuis 9 mois, si tout s'est bien passé. Mais je vous en supplie, laissez la mère retrouver un peu de sérénité, se reposer, se remettre parfois d'un accouchement difficile. Il faut aussi s'habituer à s'occuper de l'enfant. La solitude ou la présence des très très proches suffit, vous savez. Les premiers jours sont exclusivement réservés à la famille. Forcément, la mère n'osera pas vous reconduire directement à la porte de sa chambre. Alors c'est à vous, messieurs, de gérer les visites.
Alors, Jérémy, ces interdictions, parfait, mais quand on fait partie de la famille, justement, alors, que faut-il faire ?
Vous avez raison. La règle la plus importante est de ne pas rester trop longtemps pour des raisons évoquées auparavant. Fatigue, stress, douleur, sommeil et j'en passe. Et en plus, ce n'est pas la période où, honnêtement, vous êtes au mieux de votre forme. 30 minutes maximum, je vous entends. le radar de temps. Mais je vous promets, c'est déjà beaucoup. Surveillez votre montre pour une fois que vous avez le droit de la regarder. Et car la contemplation, avec la contemplation, le temps passe très vite.
Alors, à propos de rabbin, vous parlez à mon cœur, Jérémy. Est-ce que je dois offrir ou pas un cadeau? Parce que déjà, avec tout ce que vous me faites offrir depuis le début de l'année...
C'est une bonne question. La règle de savoir-vivre, il n'y a aucune obligation de faire un cadeau de naissance. Il s'agit d'un usage. Les temps changent et de plus en plus de parents font, comme pour un mariage maintenant, une liste de naissances. Donc si vous avez envie de taper dans le mille, allez sur cette liste. Moi je trouve ça un peu moyen, mais les parents comptent énormément sur cette liste. Rien ne vous empêche quand même de faire un cadeau de votre choix. Les cadeaux inutiles ne servent à rien et par expérience nous savons que les parents ont déjà tout ce qu'il faut jusqu'aux 6 mois. Soit les vêtements de l'aîné, soit des prêts d'amis et aussi des achats plaisir dans l'attente de cette naissance. La proximité quand même autorise des cadeaux plus personnels ou peut-être moins sexy comme du matériel de puériculture. Donc privilégiez des cadeaux pour une tranche d'âge supérieure, même pour les jouets. Et si vous savez que l'heureux arrivant croule sous les paquets, alors un cadeau pour la maman est aussi le bienvenu. Comme des fleurs, mais des fleurs avec un parfum léger. Dans la bienséance, il est toujours apprécié d'offrir aussi un cadeau au frère ou à la sœur, parce qu'ils étaient jusqu'alors le centre unique de toute l'attention. C'est aussi un tsunami pour ces enfants.
Je ne fréquenterai plus que des gens qui en sont leur premier enfant. Je ne sais pas pour vous, moi je ne sais jamais quoi dire en plus.
Vous êtes vraiment radin. Alors là c'est très simple et pas besoin de réfléchir, on complimente le bébé. Je sais que parfois c'est un exercice difficile où l'on est obligé d'un peu de mentir. La seconde règle est de prendre des nouvelles de la maman, mais aussi du papa, n'oubliez pas les parents. Ne pas dire qu'il a l'air drôle, ou pire, atypique. Pour 99% des parents, il ou elle est sublime. Ce qui me fait rire parfois aux larmes et qui ne se fait sous aucun prétexte s'autoriser à critiquer le prénom choisi. Ça ne regarde personne. Comment ?
Ornoflette.
Exactement.
J'étais dans une église dimanche dernier, il y avait Sainte Ornoflette. Ah. J'ai été surpris.
Ah ben moi aussi. Alors ne dites pas, il est gâté avec un prénom comme ça. Ou encore, vous l'avez trouvé où ce prénom? Et pire, tous ceux qui portent ce prénom ne sont pas faciles. Et ça c'est du vécu. J'ai déjà été témoin d'une scène comme celle-ci.
Eh bien merci beaucoup Jérémy Combe.
Merci à vous, à la semaine prochaine.
Ligne droite, la revue de presse.
Et pour cette revue de presse, nous accueillons Tuc Duhal-Denis, notre partenaire Valeurs Actuelles. Bonjour Tuc Duhal.
Bonjour Richard, bonjour à tous vos auditeurs. En une de Valeurs Actuelles cette semaine, c'est l'immense Mathieu Bock-Côté. Immense dans tous les sens du terme, parce que effectivement, c'est un personnage XXL, mais aussi d'une profondeur tout à fait singulière pour notre époque. Valeurs Actuelles est un des premiers journaux à avoir cru, entre guillemets, en Mathieu Bock-Côté. On l'a mis à la une il y a déjà des années. Et là, il revient avec un livre coécrit avec Laurent Dandrieux, qui a pour titre « Le pessimiste joyeux » et qui sort chez Fayard, et qui est un livre qui est un peu le premier livre biographique, autobiographique de Mathieu Bock-Côté, où il parle de son enfance au Québec, de son rapport à la foi, de son rapport avec ses parents, mais il parle évidemment aussi de son arrivée en France, de sa percée médiatique, de son lien intellectuel avec Alain Finkielkraut, de son rapport avec les livres, puisque on découvre dans le livre, dans son autobiographie justement, à quel point en fait il a été baigné par la littérature. Et voilà, donc c'est un personnage qui assume la démesure, qui parle beaucoup de ses banquets. Il dit même que le banquet est une forme aujourd'hui de résistance parce que l'époque dans laquelle nous vivons déteste ce qui déborde et lui adore ce qui déborde. Donc il assume de beaucoup manger, de bien boire et de profiter donc de ses banquets pour refaire le monde avec ses amis.
C'est un gros dossier, si j'ose dire, à l'image de Mathieu Bock-Côté, voilà, qu'il me pardonne. Et avec notamment un abécédaire qui est tout à fait aimable. C'est les extraits choisis par Michael Fonton. Voilà, banquet, Dieu, diversité, droite, Finkielkraut, flac, pandémie, quiz, racisme et Zemmour. Est-ce que en lisant ce livre d'entretien, donc réalisé par Laurent Dandrieux, on découvre un Mathieu Bock-Côté nouveau ou on a la confirmation qu'il est au naturel, ce qu'il paraît être à l'écran?
Non, mais sur le plan intellectuel, ça lui permet de délayer ces thèmes de prédilection qu'on connaît déjà, sa dénonciation d'un multiculturalisme à tout craint, sa dénonciation d'une époque aseptisée, par exemple. Mais effectivement, moi, je trouve que ce qu'il y a de très sympa dans ce livre, bon, déjà, c'est les échanges avec Laurent Dandrieu, parce que Laurent Dandrieu, pour vos auditeurs qui le, les quelques auditeurs qui ne le connaissent pas, c'est le chef du service culture de Valeurs Actuelles. Il a justement une culture générale immense. Il s'y connaît aussi bien en littérature qu'en cinéma, qu'en vie des idées. Et donc, il y a quand même des ping-pong, honnêtement, assez époustouflants entre les deux, où il cite telle scène de film oubliée, tel passage de livre, telle citation de philosophe. Et après, ce qu'on découvre aussi, c'est effectivement une certaine sensibilité de Mathieu Bocoté, notamment dans son rapport à la foi, qui est pas forcément évident, et puis dans une forme de mégalomanie assumée, d'humour sur lui-même. Donc pour vos auditeurs qui aiment regarder Mathieu Bocoté à la télévision ou l'écouter à la radio, moi je leur recommande effectivement de lire Valeurs Actuelles cette semaine, où ils découvriront un peu l'envers du décor.
Voilà, cet envers du décor. Et il y a un autre envers du décor, c'est l'article qui m'a le plus étonné. Tinder-champ, drague, drogues et délits routiers. Les garçons abordent les filles en proposant du protoxyde d'azote. C'est devenu un argument de drague.
La oui, plus belle habitude du monde. Effectivement, moi, c'est un phénomène que je n'avais pas, pourtant vivant à Paris, mais que je n'avais pas du tout repéré. Mais en fait, le week-end, le soir, les adolescents qui viennent de banlieue, en fait, font le tour des Champs-Élysées maintes fois en voiture. Et il y a des voitures de garçons, des voitures de filles. Et ils se jaugent comme ça à travers les vitres. Et puis s'ils ont envie de se parler, ils baissent les vitres, et puis plus il y a affinité. Mais il y a quelque chose d'un peu dématérialisé à distance comme ça, d'une relation amoureuse ou interpersonnelle honnêtement assez dégradée, voire parfois dégradante. Et donc c'est ça que raconte l'article.
Voilà, et il y a aussi un grand entretien à la fois intéressant et irritant avec le patron de BPI France. Voilà, donc comme d'habitude, un véritable numéro où il y a de quoi boire et de quoi manger, comme oui. dirait Mathieu Bocoté.
Oui, non, c'est vrai que Nicolas Dufourcq, hein, c'est une figure du patronat français, donc patron de la BPI France aujourd'hui. Il est aussi administrateur de Stellantis, le groupe automobile qui comporte notamment Peugeot. Et Nicolas Dufourcq a signé un livre il y a pas très longtemps sur la fin du modèle social français. Et aujourd'hui, c'est vraiment un de ses chevaux de bataille. Il explique à quel point on n'a plus les moyens de cet état providence, c'était un bien joli mot à l'époque, mais qui est devenu aujourd'hui un état obèse et complètement dispendieux. Et voilà, avec toute la science de ce grand patron français, il explique où devraient aller nos finances publiques.
Voilà, et donc dans sa poche, dans la poche des banquiers. Non, pas, je plaisante. Non, très bon entretien, même si voilà, il a une façon de doucher les enthousiasmes du RN qui mériterait une vraie discussion avec les gens du Rassemblement National. Merci beaucoup, Tuc Dualdoni, et à la semaine prochaine.
Zone libre.
Et maintenant, la zone libre avec les experts du numérique et de la diversité de la faune que sont Magda Dotfeuille et Louis Rigaudière.
Ah là, toujours ces compliments qui peuvent être vraiment bien à l'aise. Bonjour Richard, bonjour à tous.
Alors Louis, qu'êtes-vous allé pêcher dans les tréfonds du Darknet aujourd'hui ?
Écoutez, je vois qu'on a beaucoup de temps ce matin. Bah écoutez, c'est parfait parce que je me suis un petit peu plongé sur Internet et ses archives parce que là, évidemment, l'Iran et encore l'Iran, la guerre, on ne parle que de ça en ce moment. Et je me suis dit qu'avec, entre l'Iran, l'Ukraine, etc., il y avait quand même une ambiance assez pesante, en tout cas en France, et qu'on pouvait se demander ce que faisaient nos forces de l'ordre, notre armée, hein, qui devrait se préparer, à mon avis, à affronter les conflits les plus violents. Et donc, je me suis plongé un petit peu dans quelques petites archives, hein, et parfois très croustillantes, comme ici, une archive des années 90 de l'INA. Vous vous souvenez de cette émission du zapping qui répertoriait, oui. ce qui existe encore d'ailleurs, hein, mais qui a été reformaté par le service public à la sauce gauchiste, on va dire. Donc voilà, qui a perdu toute sa saveur. Et là, en l'occurrence, c'est l'INA. Et on écoute des gendarmes qui se préparent à un conflit majeur. Écoutez, c'est assez amusant.
Mais l'intérêt, c'est qu'un jour, ça peut être la guerre. Et si vous êtes là, c'est pourquoi ? C'est pourquoi vous êtes là ?
Pour servir !
Plus fort !
Pour servir !
Eh bien... Et puis vous êtes là parce que c'est l'aventure, les mecs. Il n'y a pas de routine. Il n'y a pas, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir ? Qu'est-ce que la grosse, elle va m'avoir préparé ?
C'est une autre époque. Hein. C'est une autre époque et c'est magnifique. Vous verrez les caporaux chefs avec leurs moustaches vraiment typiques de l'époque. C'est quand même magnifique. Et on faisait à l'époque aussi des micro-trottoirs. Alors là, c'est plutôt au début des années 2000, à l'époque de la guerre en Irak. Et évidemment, certains avis étaient très, très tranchés, comme cette passante. Écoutez.
Si c'était moi, je ferais tout sauter.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que le Golfe Persique, l'Irak surtout, et l'Iran, je ferai un grand parking.
Non, un grand parking, voilà, rien que ça. Non, mais c'est parfait, vraiment, elle est déterminée, hein, la jeune femme à l'époque. Et bon, après, on peut s'inquiéter du côté de Donald Trump, hein, qui visiblement perd de plus en plus d'énergie avec cette guerre qui s'éternise, au point de s'endormir pendant une conférence de presse. Je ne sais pas si vous avez passé cette vidéo, Richard, hier soir. C'est assez étrange parce que là, on n'est pas dans une grande conférence où on peut dormir tranquillement. Là, on était vraiment devant les caméras et ça a été évidemment filmé et commenté par BFM TV.
Oui, c'est une scène qui s'est déroulée dans le bureau Oval hier pendant un événement ouvert à la presse consacré à l'accessibilité des soins. Et c'est vrai que Donald Trump a été surpris en train de somnoler, de s'endormir face caméra, à fermer et rouvrir ses yeux à plusieurs reprises. Pendant que son administration pourtant était en train de détailler des accords internationaux sur le sujet, c'est vrai que cette séquence a été largement moquée, commentée sur les réseaux sociaux notamment.
C'est vrai que l'image est assez dérangeante, on le voit se balancer comme ça sur sa chaise d'avant en arrière, avec les yeux évidemment qui ferment. Bon, il se défendra évidemment qu'il regardait l'intérieur de ses paupières et qu'il réfléchissait à l'avenir du Proche-Orient. Mais bon, là, en l'occurrence, il dormait pour de vrai. Mais si jamais le pire des scénarios devait arriver, si l'Iran devait vraiment, si la région du Moyen-Orient devait vraiment éclater et que la guerre devait arriver en Europe, eh bien nul doute que les Français respecteront les règles les plus dures, comme le confinement, écoutez.
Allô, ici la mairie d'Issou. Suite à un grave incendie, le plan de secours de l'usine F-Enter a été déclenché. Confinez-vous rapidement dans le local le plus proche.
Vous avez compris ce qu'il faut faire ?
Rester chez soi, c'est tout. Se calfeutrer, rester chez soi.
Et là, vous êtes ?
Je suis dehors.
Hein ? Donc vous faites pas bien l'exercice ?
Je le fais à moitié.
C'est parfait. C'est génial.
Ah, c'est magnifique. Non, mais voilà, vous avez encore, vous n'avez pas la vidéo, mais vraiment, c'est assez, assez remarquable. Voilà, ces personnes qui, avec leur aisance, ne respectent pas les règles les plus élémentaires. En tout cas, voilà, je salue ce monsieur. Et c'était une archive des années 90. Voilà, Richard, c'était un petit peu une chronique improvisée, hein, pardonnez-moi, mais qu'on a le temps.
C'est très, très bien. J'aime beaucoup l'idée. Je le fais à moitié. Je pense qu'il vote à moitié aussi. Oui. Puis après, il se demande pourquoi le résultat des élections n'est pas celui qu'il voulait. Magda Dautefeuille.
Écoutez, je vais vous parler de quelque chose d'assez insolite aussi, l'état des Français. À Nantes, pendant que d'autres villes plantent des arbres pour sauver la planète, ils ont décidé de passer directement une étape...
Non, ils ne plantent pas des arbres, ils plantent des culottes.
Voilà, c'est exactement ça.
Oui,
ils plantent des slips. L'idée, c'est une idée hyper ingénieuse, en fait, qui consiste à enterrer ces petits sous-vêtements en coton à 15 cm sous terre, attendre patiemment que la nature fasse ce qu'elle a de mieux à faire. Et plus le slip ressort en lambeaux, plus tout le monde est content, parce qu'en fait, ça veut dire que les bactéries travaillent bien.
Oui, bah oui.
Voilà, donc on arrive à une situation où, en fait, des adultes sérieux, censés quand même travailler, etc., sont pelle à la main et ils peuvent dire, en toute honnêteté, qu'ils vont aller déterrer leur slip. Voilà. Voir si la nature va bien.
Mais alors, c'est pas très écologique.
Vous serez navré d'apprendre que sur BFM, l'initiative municipale d'enterrer ses sous-vêtements dans les parcs et jardins de la ville, donc l'opération Plante ton slip, a été accueillie avec beaucoup de mépris par les grandes gueules. Voilà. Les grandes gueules, l'émission.
Ah, RMC, oui, pardon.
Oui, RMC, pardon.
Voilà. Il y a eu vachement d'investissements, hein, n'empêche. Hein. Il y a beaucoup de gens qui y sont allés et tout ça. Mais en plus, ça vient du Canada. Hein. C'est vraiment une vraie initiative internationale et tout. Non, ouais, c'est sûr. C'est... Il y a beaucoup de monde qui...
Et donc, ça a été mal accueilli par...
mal accueilli. Ils ont l'impression que le fait de s'extasier devant les moisissures que porte un slip ne va pas véritablement faire avancer la cause des gens.
Oui, évidemment. Bah,
ils ont l'impression que c'est une bouffonnerie. Enfin, voilà.
C'est un petit peu particulier comme exercice, quand même. J'ai vu quelques photos tournées. Ça donne pas trop envie de s'atteler
Habitant de Nantes, dénonce du ridicule et du grand n'importe quoi, estimant qu'il y a autre chose à faire, c'était des citations avec l'argent public, et il décrit une population, je cite, désabusée face à ce qu'il qualifie de bouffonnerie.
Oui. Bon, bah, au moins, c'est bien, on salue les gens qui ont des idées un petit peu ingénieuses comme ça. Je sais pas, vous faites quoi, Magda, pour l'écologie? Est-ce que vous avez des méthodes un petit peu aussi originales
pour enterrer ces slips?
Alors, je ne vous demande pas particulièrement ça, mais est-ce que. Non, mais là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a peut-être des idées ingénieuses, hein, mais de là à enterrer ces slips, là, j'avoue, là, ça me dépasse un petit peu.
Ouais, c'est juste pour évaluer en plus le nombre de bactéries. Enfin, si je pourrais évaluer le sol, quoi, ça n'a même pas vraiment d'intérêt
ça va pas,
au sens...
Ça va pas au-delà. Vous êtes écolo, vous, Richard?
Non, je suis normal. C'est que d'abord, par exemple, j'évite de planter mes slips dans mon jardin. Et en revanche, je fais en sorte de ne pas mettre de désherbants chimiques. Je désherbe la cour à la main. Enfin, ouais, ce genre de choses.
Ah oui, d'accord.
Oui, ça marche bien aussi.
Non, mais après, voilà, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous préoccupe. Vous êtes.
Oui,
vous ne méprisez pas le thème.
Absolument pas. On en a parlé une demi-heure avec Xavier Aymon. Oui, voilà, il est absolument nécessaire de faire attention à l'environnement. Et puis, c'est beaucoup plus agréable d'avoir des fleurs et des bêtes autour de chez soi plutôt que du goudron et du chien dent, quoi.
Mais en France, on a cette culture-là, et la France, évidemment, est une des championnes d'Europe, et même du monde, hein, dans les pays qui émettent le moins de gaz à effet de serre, hein, si je ne m'abuse. C'est vraiment ce que j'ai entendu de nombreuses fois. Il y avait même alors un économiste, je ne sais plus lequel, mais qui avait expliqué que si la France disparaissait, se vidait de tous ses habitants et disparaissait purement et simplement du globe, le problème écologique serait toujours là et la courbe ne varierait pas d'un iota. Donc ça montre bien que la France n'a absolument aucun impact, si ce n'est négatif, sur ce phénomène.
Absolument. Et voilà. Et comme c'est le printemps, j'encourage tous les gens à photographier les plantes qu'il y a dans les rues des villes. Elles sont en train de fleurir. Et l'autre jour, il y avait des bouquets de fleurs violettes rue des Vignes. C'était absolument ravissant. Elles étaient en train de fleurir sur les murs, au pied des poteaux. Enfin, voilà. C'était un petit spectacle gentil comme tout, d'une espèce de nature qui essaie timidement de récupérer le bitume. Merci beaucoup, Louis. Merci beaucoup, Magda. C'est le moment de prendre congé de nos auditeurs sur YouTube et sur X, mais les autres ne partez pas. D'une part parce qu'on a un message important à vous dire, vous êtes 1,5 million à nous écouter chaque semaine, 1,5 million différents, c'est tout juste si on ne connaît pas vos prénoms, mais vous n'êtes que quelques milliers à nous donner de l'argent, vous êtes un peu moins de 20 000, et bien l'idée, c'est un défi qu'on vous lance, pourquoi ne pas faire partie de ceux qui nous permettront d'atteindre 19 et 20 000 en nous donnant de l'argent.
Et en tout cas, si vous voulez voir perdurer cette belle aventure qu'est Radio Courtoisie, je vous engage vivement à nous faire des dons en ligne en vous rendant sur cette adresse, notez-la bien, soutenir.rc.fr et d'adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.
Et dans l'immédiat, nous allons réécouter Clara Egger nous parler de sa révolution démocratique avec le référendum d'initiative citoyenne constituant.
Ligne droite. Debout les Français.
Bonjour Clara Egger.
Bonjour, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends très bien, pardonnez-moi, d'habitude ça marche beaucoup mieux, mais en fait, voilà, on en parlera après l'émission. Vous portez deux propositions qui sont absolument fondamentales et en même temps très originales. D'une part, redonner le pouvoir aux communes, d'autre part, redonner le pouvoir aux citoyens. Parlons d'abord de ce pouvoir aux citoyens.
Bah, dans notre pays, la France est un des pays en Europe où les citoyens ont le moins de pouvoir, c'est-à-dire... Aujourd'hui, en France, le pouvoir se concentre en fait dans les mains d'un petit nombre de personnes, principalement les membres du gouvernement. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que notamment le pouvoir de proposer des modifications constitutionnelles et de les approuver soit étendu à l'ensemble d'entre nous. Et ça nous paraît absolument fondamental pour sortir d'une situation où effectivement, de moins en moins de personnes décident et font subir au plus grand nombre dans notre pays.
Alors, c'est d'ailleurs cette notion de moins en moins de personnes décident, peuvent, et en parallèle de plus en plus de personnes subissent. C'est exactement ce que vous avez étudié avec la crise du Covid-19, puisque vous avez travaillé sur la manière dont cette crise avait été gérée dans toute l'Europe.
Oui, exactement. Et on a trouvé des résultats qui sont intéressants. Alors, comparé avec les autres pays européens, c'est intéressant parce que tous les pays ont employé les mêmes mots pour gérer le Covid. Donc, par exemple, tout le monde a parlé de confinement, de passe sanitaire, mais en fait, les dispositions étaient très différentes d'un pays à l'autre. Par exemple, je vous donne juste un exemple, on le sait assez peu, mais la France est le pays européen qui a le record du nombre de jours d'état d'urgence devant la Hongrie. Donc, on parle souvent de la Hongrie comme exemple de pays qui est en régression démocratique et qui suremploie l'état d'urgence, mais en fait, nous sommes, pendant le Covid, les champions d'Europe.
Voilà, 861 jours, effectivement, avec un gouvernement qui a multiplié les mesures exceptionnelles et exactement. Surtout qui a totalement détruit la confiance des Français dans les institutions.
Oui, alors elle était déjà pas haute, soyons très clairs. C'est-à-dire, la France se caractérise, et c'est, oui, on le comprend en fait, hein, quand les décisions sont prises en fait contre les gens, mais non pas avec eux et pour eux, où ils n'ont aucun pouvoir d'influencer les choses, et bien effectivement, la confiance dans les institutions baisse fortement. Alors, elle n'est pas aussi basse pour toutes les institutions en France, mais elle est particulièrement basse pour les partis politiques. Hein, on est à 6% des Français qui déclarent avoir confiance dans les partis politiques. Et au gouvernement, au Parlement, c'est un peu plus haut, mais ce n'est pas brillant non plus. On est sur un peu en dessous de 40%. Donc, moins d'un Français sur deux a confiance aux personnes qui sont censées les représenter.
Alors, avec ce référendum d'initiative citoyenne constituante, ce que vous proposez, c'est qu'en fait, passé un certain seuil, ce sont les Français qui décident de modifier la Constitution. Et par exemple, donc le Conseil constitutionnel ne peut pas expliquer qu'un référendum sur l'immigration, c'est pas normal. Laurent Fabius et ses successeurs, comme Richard Ferrand, ne pourront pas empêcher qu'on modifie la Constitution en privilégiant leur interprétation des institutions.
Exactement, parce qu'il y a deux, il y a dans le référendum d'initiative citoyenne constituant, il y a deux outils qui sont très importants d'avoir ensemble, qui sont complémentaires. Le premier, c'est ce qu'on appelle le référendum obligatoire. C'est l'idée que la Constitution ne peut pas être modifiée sans vote de l'ensemble des citoyens français. C'est-à-dire que ce sont des décisions trop importantes pour qu'elles soient laissées aux seuls représentants. Ça, c'est le 1. C'était la voie ordinaire dans notre Constitution. Et en fait, il y a un petit alinéa qui introduit la possibilité pour le Congrès de voter des modifications constitutionnelles dans le dos des citoyens. Et cet alinéa a été en fait utilisé pour toutes les révisions constitutionnelles sauf une. Et l'autre aspect, c'est d'ouvrir effectivement le droit de proposer des modifications constitutionnelles aux citoyens. Donc, par exemple, vous prenez le sujet de l'immigration. En fait, les citoyens français pourraient, à partir du moment où ils reçoivent 700 000 signatures, ils pourraient proposer une réforme précise de la politique migratoire française. Donc, on n'est pas sur un référendum oui-non à plus d'immigration, mais vraiment une proposition précise sur comment gérer les enjeux migratoires aujourd'hui.
Alors, ce pouvoir rendu au peuple, vous voulez aussi le rendre aux communes, qui sont l'échelon démocratique le plus proche des citoyens, et d'ailleurs celui qui a le plus fort taux de confiance si on regarde les baromètres du CEVIPOF. Et par exemple, vous proposez que les communes, en fait, déterminent elles-mêmes leurs compétences. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État jacobin qui impose aux communes un certain nombre de prérogatives. Au contraire, ce sont les communes qui expliquent, eh bien, si je veux, c'est moi qui gère l'eau, si je veux, c'est moi qui gère l'environnement, si je veux, je décide de ma fiscalité.
Oui, alors ça, c'est un enjeu. En fait, nous, on est une candidature qui souhaite ouvrir quelque chose qui est vraiment inédit, comme vous le disiez, parce qu'en fait, aucun candidat aujourd'hui ne le porte. On est vraiment, là, la présidentielle commence, hein, les candidats commencent à frétiller. On est vraiment re-rentré dans une période où, en fait, on a des candidats qui sont un peu des candidats de Père Noël, qui promettent tout et n'importe quoi, alors que pour avoir la possibilité de faire ces réformes, il faut qu'ils cumulent tous les pouvoirs, parce que là, la fonction présidentielle dans notre pays, je le rappelle, est une fonction d'arbitrage, une fonction d'union des Français et pas une fonction de décision. C'est le Premier ministre qui a une fonction de décision. Donc nous, on veut un peu rétablir l'équilibre dans notre pays, c'est-à-dire redonner le poids aux citoyens, vous l'avez expliqué, et redonner le poids aux communes, aux élus locaux vis-à-vis des élus nationaux. Bon, aujourd'hui, vous êtes parisien, moi non, je suis ardéchoise, vous vous sentez peut-être moins, mais le pouvoir se concentre géographiquement vraiment à Paris. Et quand vous vivez en zone rurale aujourd'hui, loin d'une grande ville et loin d'un centre de pouvoir, il ne vous reste plus rien. Vous n'avez pas accès à l'hôpital, l'accès à l'école est difficile, l'accès aux services de base, une boulangerie, une boucherie, mais quasiment inexistant. Et on a des maires qui sont en première ligne, très populaires, parce que c'est des élus locaux très proches des gens, effectivement, et qui se retrouvent entre le marteau et l'enclume. Ils ne décident plus de rien, mais ils doivent assumer auprès des citoyens des décisions qui leur sont défavorables. Nous, ce qu'on souhaite, et c'est un sentier qu'on souhaite ouvrir avec les maires de France, nous, on fait une proposition qui est cette proposition de subsidiarité ascendante, c'est-à-dire l'idée que si les communes le souhaitent, si elles le souhaitent, hein, c'est un droit, ça ne veut pas dire que demain, les communes vont se retrouver à exercer toute une série de compétences. Et si elles le souhaitent, elles doivent pouvoir exercer au plus proche des gens des compétences. Je vous donne un exemple, c'est la compétence eau. En fait, il y a 5 ans, la compétence eau a été transmise aux communautés de communes. Dans les communautés de communes, la façon dont Emmanuel Macron les a dessinées, le but, c'était de vassaliser des petites communes auprès des grandes villes. Et aujourd'hui, on se retrouve dans des périodes estivales où les petites communes qui ont beaucoup d'agriculteurs ne sont pas capables d'avoir accès à l'eau pour faire vivre l'agriculture, qui est quand même un élément fondamental de notre économie et puis de la vie quotidienne des personnes. Donc ça, on veut que cette situation s'arrête, on veut rétablir de l'équilibre et de l'efficacité dans notre pays et arrêter cette course à la centralisation, tant dans les mains du gouvernement que des grandes villes.
Clara Egger, cette proposition que vous portez fait que vous avez un programme d'une simplicité infinie, d'ailleurs c'est presque rafraîchissant. Vous n'avez que 2 propositions programmatiques qui tournent autour justement de cette modification de la Constitution, et après vous faites confiance aux Français. Avez-vous le sentiment que cette année, enfin que l'année prochaine, en 2027, vous aurez les 500 signatures qui vous permettront de participer vraiment au débat républicain?
Alors je vais répondre à votre question immédiatement et je vais reprendre sur un point. On est vraiment les seuls candidats qui ont un projet qui colle dans les clous de ce qu'un président de la République peut faire. Et ça, je voudrais le souligner parce que vous avez parlé effectivement de rétablir l'équilibre, donc redonner du pouvoir aux citoyens vis-à-vis du gouvernement, redonner du pouvoir aux maires vis-à-vis des villes et de Paris. Et le troisième aspect, c'est que nous, en fait, on a une candidature qui est une candidature présidentielle. C'est-à-dire, nous, on respecte les règles du jeu. Nous sommes des citoyens qui avons subi les excès de pouvoir. Donc, nous, on sait qu'une figure présidentielle, c'est une figure d'arbitrage. Donc, si vous voulez, notre programme, si vous le regardez, il couvre l'intégralité des sujets. On parle d'économie, on parle de migration, on parle de transition écologique, on parle de sécurité. Mais on en parle avec la focale de ce que ferait un président de la République. Et un président de la République n'est pas un super Premier ministre. Ça, c'est le principal problème dans notre pays. Et on le voit aujourd'hui, c'est qu'on a un Emmanuel Macron qui n'a plus la majorité à l'Assemblée et qui se découvre complètement dépourvu. Il ne sait plus du tout, en fait, quelle est sa fiche de poste. Eh bien, il aurait dû la lire en première instance. Parce que sa fiche de poste, c'est la fiche de poste d'un président pour l'intégralité des Français qui est au-dessus des partis et qui arbitre. Quand il sent qu'il y a une tension entre les différents pouvoirs, il convoque un référendum. Il est capable aussi de faire des consultations plus larges. Donc ça, c'est un troisième aspect, c'est qu'on a vraiment une candidature à la présidentielle. Donc on parlera de tous les sujets. Et d'ailleurs, dans nos discussions avec les maires, on parle de tous les sujets, mais de la focale d'un président de la République, parce que on a envie, si vous voulez, de nous siffler la fin de la récréation. On a des élus qui, depuis plusieurs années, cherchent à cumuler les pouvoirs. Là, nous font des promesses, nous disent « donnez-moi tous les pouvoirs et on va tout changer ». Et nous, en tant que citoyens, on a dit « non, il faut arrêter ça, en fait. Notre démocratie est trop importante pour qu'on la laisse dans les mains de personnes qui sont des pyromanes, en fait, qui veulent seulement réaliser leurs mesures et peu importe si les autres sont d'accord ou pas ». Donc là, on est parti à la collecte de signatures. C'est difficile, je ne vais pas vous le cacher, surtout parce qu'on a une municipale qui a été très resserrée vis-à-vis du calendrier présidentiel. Mais on a une équipe extrêmement compétente. Notre équipe de campagne est très élargie. Elle est pilotée par Raoul Mani-Berton. Au parrainage, nous avons Albin Guillot. Et on a déjà aujourd'hui l'engagement de 7 maires. Donc on a commencé il y a 3 semaines. On a déjà 7 maires qui se sont engagés à considérer un parrainage en amont de la présidentielle. Donc on va continuer ce travail. Et bien sûr, si le projet parle, on a besoin de soutien, on a besoin de gens. On a une équipe très dynamique, mais voilà, c'est un grand chantier. Et on essaye d'aller le plus loin possible aussi, dans l'espoir que cette candidature, qui n'est pas à Julien, hein, une candidature témoignage.
Clara Egger, merci, ouais. Merci mille fois. Je vous promets que vous reviendrez sur Radio Courtoisie et qu'on n'aura pas les mêmes problèmes de connexion du début. Donc à très bientôt et très bon courage pour cette belle initiative.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Richard de Sèze.
Eh bien, chers amis, voilà, c'est presque fini. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une dernière fois, on va demander à Arnaud de nous expliquer comment faire pour nous soutenir.
Si vous souhaitez soutenir Radio Courtoisie financièrement, faites-nous des dons en ligne en vous rendant sur soutenir.rc.fr ou bien encore, vous pouvez envoyer vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Merci d'avance.
Voilà, et avec ces subsides, c'est une cornucopie de belles émissions que nous vous offrons.
tout à l'heure à 10h, dans un instant, Promenade des Flâneuses au domaine de poésie, dirigé par Pascal Payen-Appenzeller. À midi, en direct, vous pourrez suivre le libre journal de la crise, dirigé par Laurent Arthur Duplessis. Le sujet du jour, l'escalade est-elle inéluctable au Moyen-Orient? À 17h, Histoires à la loupe, dirigé par Patrick Simon, consacré à la promesse d'Abraham, première partie. À 17h30, Restons courtois, dirigé ce soir par Marc Baudrier, une émission à suivre également sur la chaîne YouTube de Radio Courtoisie ainsi que sur X. Les sujets de ce Restons courtois du jour, face à la guerre, l'économie française peut-elle tenir? Et Bataclan 2015, retour sur un exploit avec Christophe Molmy, patron de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention de Paris qui a livré l'assaut au Bataclan. À 19h30, en direct également, le libre journal de Philippe Pichot-Bravard, consacré à Jean de Vigry, puis à Chateaubriand politique. À 21h30, en direct, Prolongation, dirigé par Stanislas Rigaud. Et puis enfin, ce soir, à 23h, Chant grégorien, proposé par Patrick Banken, une émission consacrée cette semaine au troisième dimanche après Pâques par les moines de l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes.
Eh bien, merci beaucoup Arnaud, et merci à tous les patrons d'émission. Et moi, je ne vous dis pas à demain, mais je vous dis à lundi.
À lundi, très bon week-end à tous.